Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, K.R. Kevin Raphaël.
Ben yo.
Ben yo quoi?
Ben yo.
Tu parles d'une intro, ben yo.
Mais le char est parti ou il est pas parti?
Quel char?
Ton char à Trois-Rivières.
Okay. Mais le pire, là, c'est que, bon, pour ceux qui ont suivi mes réseaux sociaux vendredi dernier, c'est que je m'en vais voir le match des Lions. J'arrive 20 minutes avant le match et le stationnement, il n'y a plus de place. Donc, il y a toujours un stationnement avec de la terre battue juste en face de l'entrée principale. Habituellement, il y a de la place. Là, c'était le match d'ouverture. C'était vraiment, vraiment bondé. Mais à un moment donné, je vois une place. Je me pense plus fin qu'un autre. Et je me dis, ben là, il y a une place. Personne ne l'a vu, mais allez la prendre. Et dès que j'ai commencé à avancer dans cette place-là, tranquillement, parce que je voyais pas trop où ça menait, j'ai calé dans la bouette, mais solide.
Idiot!
Mais là, je fais comme...
Ça va devenir un drop, ça.
Il y a plus de chance que je puisse partir de là. Donc, je dis à mon chum avec qui je suis, je dis, OK, regarde, on va laisser le char là, on va aller voir la game, puis on s'arrangera après la game. Donc, durant la partie, je me suis abonné à CAA.
Yes!
Et j'ai appelé CAA en sortant. Et puis 15 minutes après, ils sont venus me tower. Il y avait plus un char dans ce parking-là. Ils sont venus me tower, puis je suis parti chez nous comme si de rien n'était. Mon char était fucking sale, par contre.
Ben, l'as-tu lavé?
Ben oui, j'ai été le faire laver le lendemain. J'avais pas le choix.
Moi, j'ai une bonne nouvelle.
Voilà. T'as une bonne nouvelle, oui?
Ma borne électrique chez moi marche.
OK, puis elle marchait pas?
Depuis un an.
Ah!
Ça fait un an, frais d'un véhicule électrique. Parce que, bon, j'ai mis la borne marchait pas, j'ai acheté une nouvelle borne, on a remis la nouvelle borne, là, ça marchait pas. J'ai jamais flashé que ça pouvait être mon auto. J'ai dit, yo, c'est Tesla, les Tesla n'ont pas de problème, là. Fait que là, à chaque fois, je devais me brancher...
T'es naïf.
Ouais. À chaque fois, je devais me brancher...
Nostradakev!
Ah, soit à la job, soit dans les bornes électriques, soit dans les supercharges. Mais tu sais, les supercharges, ça coûte quand même de l'argent, tu sais.
Ouais.
Des fois, j'allais travailler, je me réveillais plus tôt pour aller dans un supercharge. C'était un pain in the ass. Là.
Hey, pour vrai.
Surtout l'hiver. Là. Mais tu sais, j'étais juste comme, regarde, c'est pas la fin du monde. Il y a des choses pires que ça dans la vie.
C'est sûr.
J'ai conduit, je suis arrivé à Québec. En fin de semaine, c'est le bonjour.
Ouais.
Il me reste 25 km dans l'auto. J'arrive à l'hôtel, bonne entente, je branche le... Là, ça marche pas. Je dis, oh non. Là, ça marche pas comme ça marche pas chez nous. Fait que là, fallait que je prenne mon 25 km, que je me rends à une borne supercharge. C'est la nuit. Parce que sinon, je me rends pas à salut bonjour. Là. Fait que là, quand je suis revenu en ville, j'ai dit, I'm a fix that shit. Fait que j'étais chez Tesla sans rendez-vous, parce que tu peux pas aller sans rendez-vous. Mais là, j'ai dit, yo, c'est assez le niaisage. Je suis sans rendez-vous. Le gars, il m'a dit, j'ai expliqué.
Le gars m'a dit, retourne chez vous, prends rendez-vous.
J'ai expliqué mon problème au gars. Il m'a dit, OK, donne-moi 15 minutes. Tu sais quoi? Faut juste que tu repartes ton véhicule.
Qu'est-ce que je veux dire, repartir ton véhicule?
Le système. Comme l'ordinateur. Reset? Comme peser sur reset sur ton ordinateur.
Ah.
Mise à jour, reset, whatever. Là. Bro. 15 minutes, ça a pris.
Puis là, c'est correct?
Là, tout marche. J'étais même pas content. Il a dit, tu veux que je lave ton char?
Est-ce que t'as déjà canné son idiot tantôt pour lui rejouer?
Yo, ouais, je conduisais, puis j'étais. Piste, là. J'étais piste. J'étais comme, yo, fuck that. Puis la première journée, je l'ai même pas chargé parce que j'étais fâché. La deuxième, je l'ai chargé.
Est-ce que ça a mieux été avec James Pantemis à sans restriction?
Yeah, Jamesy, il est venu juste avant
j'ai
son match.
J'ai prononcé son nom comme il faut.
Good. Juste avant son match contre New York, l'Impact, oui. Ont joué dimanche.
J'étais au match.
Ouais, défaite de l'Impact.
Mais oui, malheureusement.
C'était pas facile. Puis j'en ai fait un avec Anne-Sophie Bété. On l'a juste pas encore publié, mais il est déjà disponible si vous voulez l'écouter. Anne-Sophie sur le pod. Capitaine de la force. Comme assistante
Catherine
Daou et Sarah Lefort. C'est nice. C'était vote des joueuses en plus. Moi, je suis content. On a perdu 3-1 premier match pré-saison, mais deuxième match pré-saison à Laval samedi, ça va bien aller.
C'est à Laval samedi, puis évidemment, les billets pour les 26 et 27 novembre, les deux parties.
Le point de vente.
Les deux premières parties de l'équipe. Sur le point de vente, c'était à 2h l'après-midi, je crois, les deux parties. Une à Verdun, le 26 à Verdun, le 27 à l'aréna Raymond Bourque, à Ville-Saint-Laurent.
Yeah, exact.
On dirait que c'est moi qui ai fait l'erreur. Et puis, je vais être là comme annoncé en maison.
Annoncé en maison. Puis
bien
hâte. On a plein de surprises pour vous, guys. Pour vrai, acheter des billets. Là, je sais même pas on est
rendu. Là, tu sais que tu m'as fait chercher une chanteuse qui a au moins 1 million d'abonnés sur TikTok.
J'ai pas dit une chanteuse. J'ai dit une artiste.
Ben, OK, attends une minute. Time out, là. Elle va chanter les hymnes nationaux.
J'ai pas dit qu'elle faisait l'hymne national. J'ai dit qu'elle faisait la présentation des joueuses.
Ah, je pensais que c'était moi qui faisais la présentation des joueuses. Qu'est-ce que je fais, moi?
Non, tu fais la présentation des joueuses, mais elle, elle fait la... C'est une artiste! Elle fait de la musique!
Elle fait de la musique?
Oui!
Ah! Puis elle est suivie par 1 million de personnes sur TikTok.
Oui.
OK? Mais elle fait de la musique, c'est une Québécoise.
Oui.
Puis es-tu connue pour autre chose que faire de la musique sur TikTok?
Ben, sur Instagram.
Elle fait de la musique aussi sur Instagram? Mais genre, as-tu déjà fait de la télé? As-tu déjà...
Non.
OK, parce que j'avais un nom en tête, mais ça doit pas être elle. OK, c'est beau.
C'est impossible, tu trouves.
OK. Butch Bouchard.
Butchy, elle a acheté le livre d'Émile Butch Bouchard de Pat Laprade.
Je suis pas sûr qu'il n'y a jamais personne.
C'est sûr que tout le monde l'a appelé Butchy. C'est sûr que quelqu'un l'a appelé Butchy.
C'était pas dans les mœurs de l'époque.
OK.
De changer les noms comme ça. Mmh. Donc, Butch, ben oui, Butch Bouchard, j'arrête pas d'avoir des bons commentaires. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Je peux pas demander mieux pour l'instant. J'ai eu un semblant de vente et ça va très, très bien.
Un semblant de vente?
OK, faut que tu comprennes le monde des livres. Oh, tu m'as envoyé une belle photo de,
oui, je suis allé
du
à...
livre. Où ça? C'est où ça? C'est où ça?
Juste à côté,
c'est
où ça? À Archambault.
Archambault, ici, à côté Cube?
Oui.
Ah, oh, c'est cool. Merci.
Tu as dit à tout le monde, Cube, c'est où? Ils vont tous venir ici maintenant.
Cube, c'est à côté d'un Archambault, là, je veux dire. Maintenant, choisissez votre Archambault. Et puis...
Breaking news! Breaking news! Fred est lost.
Pourquoi tu sors des breaking news? Parce qu'on est à côté d'un Archambault.
Archambault.
Wow! Wow! Et puis non, c'est ça, donc j'ai eu un semblant de vente. Parce que les ventes, faut que tu comprennes, là, les magasins, les librairies achètent pas de livres.
Okay.
Ils les prennent en consignation.
OK.
Donc, ils vendent des livres de leur côté. Puis à un moment donné, ben s'ils en ont plus, ils en recommandent. Okay. Ou s'il leur en reste trop, ils retournent à la maison d'édition.
Okay.
Donc, les maisons d'édition savent un peu les ventes, mais tant qu'ils n'ont pas les retours finaux, ils ne savent jamais vraiment tout ce qui va rester dans les librairies.
Okay.
Donc, c'est bien tricky d'avoir des chiffres de vente.
OK. C'est pas comme des stats de lutte, là.
Non, exact. En fait, la lutte, c'est le pire sport pour les stats, d'ailleurs, mais c'est pas comme des stats de baseball.
Non, mais
mettons,
c'est pas
là.
Comme, mettons, qu'est-ce que je veux dire, c'est, excuse-moi, les codes d'écoute. Codes d'écoute, codes d'écoute, codes d'écoute.
Non, c'est pas comme des codes d'écoute. Non, tu sais pas ça nécessairement le lendemain. Là.
Ouais, c'est ça.
Donc, j'en ai eu un semblant et ça va très bien
ah ouais,
jusqu'à
nice.
Présent. Donc, on est très, très, très.
C'est un beau
content.
Cadeau de Noël. C'est un beau
oui.
cadeau d'Halloween.
Je vais être là au Salon du Livre aussi de Montréal. Je vous donnerai là, dans les prochaines semaines.
Ouais, tu
les,
me diras, parce que je sais pas, je suis là.
Ah oui?
Ouais.
Avec Agonli?
Ben oui, parce que Agonli allait faire le test sur ragol.ca. Mais
moi, ouais, je vais être là pour Bush. Je vais être là aussi pour le Géant Ferry. Peut-être avec Bertrand Hébert.
Ah! Ouais.
Ouais.
C'est sûr que si je suis là en même temps que vous, je vais foutre le bordel chez vous. Hein.
C'est sûr. C'est sûr. Fait, ça se peut que je te donne pas les bonnes heures. Les nouvelles!
Bang, bang, bang!
Eh bien, parlant de bonnes nouvelles, on en a eu toute une lundi.
C'est assez fou, hein?
Nous, on était au courant.
Ben, parce que tu me l'as dit.
De certaines choses depuis peut-être 2 semaines.
Non, mais parce que vous comprenez pas. Là. Pat m'appelle un vendredi. Là. Quand Pat, il m'appelle, là, moi, je réponds plus au téléphone. Fait que d'habitude, il faut que tu me textes. Parce que mais quand Pat m'appelle, c'est important quand même. Parce que là, il me texte.
Moi je t'appelle pas pour rien.
Exact, je m'appelle pas pour rien. Fait que là, quand j'ai vu l'appel manquer, j'ai dit...
Soit que c'est une maudite bonne nouvelle, ou soit qu'il se passe la marde.
Exact,
tu comprends?
Exact.
Dans les deux cas, tu veux me parler.
Mais c'est... Fait que là, tu sais, j'ai dit... Ben, je vais l'appeler plus tard. Puis j'ai complètement oublié de te rappeler. Je pense que je t'ai rappelé genre 6 heures plus tard.
Tu m'as appelé pendant que j'étais en route vers Trois-Rivières.
Ouais, je t'ai rappelé tard. Là. Puis c'est quand je fais, oh shit, j'ai pas parlé à Pat. Fait que là, je suis en train de souper, man. J'ai les mains pleines. Là, dans ma tête, je suis comme, mais c'est quoi qu'il veut? Là, il m'a dit Elimination Chamber. J'ai dit, oh shit. Ah, mais ça, tu me l'avais dit déjà.
Elimination Chamber,
ouais.
On le savait.
Ouais, là, après ça, non, c'est pas, attends, comment tu me l'as dit? C'est, y a-t-il qu'Elimination Chamber, ça vient? Ouais, ouais. SmackDown aussi. Oh shit!
Ouais. Ouais, c'est ça, parce que moi, dans le fond, j'ai eu l'appel de la WWE vendredi. Et c'est la même personne qu'on connaît, là.
Ouais,
bon, qui travaille là depuis des années. Puis il me dit, j'aimerais ça te parler de quelque chose. Mais il dit, c'est off the record. Ben, je dis, off the record, évidemment, pas pour toi, là, mais off the record, t'sais. Et là, il me dit, j'ai dit, OK, mais d'après moi, je sais que toi, tu veux me parler. Il dit, ah ouais, vas-y donc. ben, tu peux me dire que Elimination Chamber s'en vient à Montréal au mois de février. Il dit ouais. Que le show à Laval est cancellé. Ouais. Ben, je dis c'est tout. Ah, il dit tu sais pas tout. Comment ça, je sais pas tout? Ben, il dit SmackDown vient aussi la veille. Ouais. Donc, très, très bonne nouvelle. 17 février, SmackDown à Montréal au Centre Bell. Le vendredi, bien évidemment, ouais, 17 février.
Malade.
Le lendemain, 18 février, un samedi, Elimination Chamber. Qui est le dernier pay-per-view ou PLE. Maintenant, c'est le terme qu'il a fallu que j'utilise dans les publications officielles. Premium Live Event. Donc, c'est le dernier PLE avant WrestleMania. C'est souvent aussi deux matchs, donc féminin et masculin, dont le gagnant va avoir un match de championnat à WrestleMania, donc c'est toujours très, très, très important. Et c'est le premier pay-per-view à Montréal depuis 2009.
Breaking Point.
T'étais-tu là à Breaking Point?
Non, j'étais pas là à Breaking Point.
C'était pas bon. Il y a eu un bon match, Cena et Orton. Ouais. Mais Cena et Orton, on les voyait tellement lutter un contre l'autre dans ces années-là qu'à un moment donné, oui, c'était un bon match, mais tu sais, je sais pas, tu sais, je
sais. C'était un house show pour elle. C'était pas un pay-per-view.
Punk était. Si, hey, j'ai regardé le line-up. Tu veux-tu rire?
Tu l'as-tu proche? C'est le fun que tu
sors. Oui, je l'ai. Puis, ce que je veux vous dire pendant ce temps-là, c'est également le premier pay-per-view au Canada depuis SummerSlam en 2019.
Ouais.
Donc, premier pay-per-view.
Ed, j'étais revenu cette journée-là.
Post-pandémie.
Ouais.
Et puis, c'est vraiment la tournée canadienne qui a été vraiment, vraiment un gros succès pour la WWE. Ouais. Ça a été le SmackDown à Montréal qui a eu les meilleures recettes de tous les SmackDown qu'il y a eu à Montréal. Donc, le premier show, tu savais-tu ça que le premier show télévisé qu'il y a eu à Montréal? Là, je parle pas de pay-per-view, là. Un show, là, tu sais, un show Raw SmackDown. C'est SmackDown en 2001, en octobre 2001. SmackDown est venu avant Raw ici à Montréal. Et puis, donc, ça fait 21 ans qu'il y a des SmackDown à Montréal. C'est celui qui a eu la meilleure recette en, au mois d'août dernier. La foule de Montréal y est pour quelque chose.
Oui.
Tu sais comment la foule a été spectaculaire. Puis tout le monde là, sur les réseaux sociaux en parlait. Là, les journalistes américains, les fans qui regardaient l'émission. Donc, ça a été vraiment les raisons qui ont poussé la WWE.
Non, mais j'en parle. Là, avec quelqu'un d'autre de ça. Là, Puis tu sais, j'ai dit la phrase, c'est nous autres qui a fait ça. Pas top et moi, Pat. Là, c'est sûr qu'on on est pour une partie de ça. Mais j'ai expliqué, yo, c'est nous qui a réalisé en équipe, tout le monde, les fans, les gens du podcast, les gens de la lutte Raw, TVA Sport. Tu sais, ensemble, on a monté la popularité de la lutte qui était un peu chambranlante au Québec, veux pas, là, t'sais, avant que Raw revienne à TVA Sport, avant qu'il y ait autant de podcasts de lutte.
Je te dirais, il y a trois. Moi, j'identifie toujours trois éléments majeurs qui ont aidé. C'est-à-dire l'arrivée de Sami Zayn à. L'arrivée de Kevin Owens à Raw en 2015. L'arrivée de Sami Zayn l'année qui a suivi, 2016. Et en 2017, notre arrivée en français avec la WWE. C'est la première fois en 19 ans que la WWE est en français. Ça, c'est les trois éléments les plus importants. Je pense que un petit peu avant ça, Bertrand et moi, avec nos livres sur la lutte, et d'aller dans les médias et de parler de lutte de façon différente, de façon intelligente, je pense que ça aussi, ça a permis à des gens de voir la lutte sur un autre, d'un autre œil.
Mais c'était pas encore mainstream.
Mais, là, ensuite, il y a eu Kevin, puis ensuite, il y a eu Sammy, puis ensuite, il y a eu nous autres à TVA Sport, puis là, je pense que là, ça a vraiment, tout a vraiment, là, tout s'est enligné pour que, justement, la lutte, tu sais, reprenne un peu ses lettres de noblesse, et le circuit indépendant, ben, a également profité, là, tu sais, t'as eu, dans les dernières années, la NSP qui a commencé à Québec à faire des shows diamants, la IWS qui roule des grosses salles à Montréal, donc quand ça marche bien en haut, ça marche bien en bas ben, également.
Guy Jodoin qui va à des shows de lutte, Mariana Madza qui fait un
exact.
Tu sais, c'est en équipe qu'on l'a fait tout le monde ensemble, puis je suis vraiment, vraiment content.
Et la foule de Montréal au mois d'août, ben, un gros chapeau à tous ceux et celles qui étaient là, parce que si la foule n'est pas aussi hot que ça à Montréal, je suis pas sûr.
Il y a pas de show.
Je suis pas sûr que c'est pas Toronto qui a ce show-là. Tu comprends?
Je comprends.
Parce que pour une fois, ben, on a devancé Toronto. Toronto garde son show du temps des fêtes le 30 décembre, mais il n'y aura pas le pay-per-view, puis il n'y aura pas ce SmackDown-là. Est-ce qu'il va avoir Raw? Je ne sais pas. C'est pas impossible. Mais ça demeure à Toronto. Mais en même temps, ils ont deux jours de voyagement. Ça se peut qu'ils s'en retournent aux États-Unis après ça, là. T'sais, tu comprends?
Ouais,
donc...
ou moi, je garderais ici, là. Parce que l'affaire, c'est que c'est... WWE est mort de rire en ce moment, là. De venir faire un PLA ici, là. Mm. Comme l'argent américain est tellement fou comparé à l'argent canadien en ce moment...
Ben,
que ça leur coûte rien, là.
Ben, ça dépend comment tu vois ça. Ça leur coûte moins cher quand ils louent les choses ici, mais en même temps, les revenus sont aussi en canadien.
Oui, non, je sais, mais parce
donc,
que
si tu fais 10 000 à 100$ le billet canadien, ben, t'en fais moins que 10 000 à 100$ américain.
Non, je comprends, mais mettons, qu'est-ce que je veux dire, c'est, ils savent qu'ici, ils vont remplir, mettons, on va faire quoi, 10, 12 000 personnes?
Moi, je prévois un 10 pour SmackDown. Puis un 13-14 pour le pay-per-view.
OK, mais...
Parce que c'est un samedi.
Ouais.
Fait le samedi, c'est pas tout le monde qui peut voyager le vendredi.
Puis c'est
pas tout le monde qui va vouloir faire les deux. Mais partir de Chicoutimi, partir de Québec, partir de Gatineau, ouais, partir de Sherbrooke le samedi matin, puis venir au show à Montréal pour le soir, ça se fait facilement. Puis ça se fait avec les enfants. Les enfants n'ont pas d'école le lendemain. C'est pas un dimanche. C'est un samedi.
Pis,
ça aussi, c'est à prendre en considération.
L'affaire du changement...
C'est peut-être même le début ou la fin de la semaine de relâche dans certaines écoles. Là. On va être 17-18 février.
Non, semaine de relâche, c'est au mois de mars. Dude.
Ah, c'est rendu partout ces premières semaines de mars?
Ben non, c'est pas partout parce que Montréal, Laval, c'est différent, whatever, mais c'est en mars.
Mais c'est en mars et puis en février. Dans mon temps,
ça n'a jamais été en février.
Oh non, ça a déjà été en février.
En 81. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que anyway, l'affaire de changement d'argent, là, c'est les billets sont plus chers au Canada qu'aux States. Fait que ça va se rebalancer anyway. Fait que c'est vraiment
avantageux pour eux. C'est vraiment une grosse nouvelle. Puis on espère que les gens vont être au rendez-vous. Les billets sont en vente le 18 novembre pour les billets combinés. C'est-à-dire ceux qui veulent acheter des billets pour les deux shows. Le 2 décembre, ça va être uniquement un des deux shows. Bien évidemment, tu peux acheter les deux shows aussi. Ouais. Mais peut-être tu peux acheter juste un des deux shows. Évidemment, le show de Laval, non, c'est pas encore annoncé que c'est annulé. Mais on vous le confirme, c'est annulé. Il n'y aura pas de show à Laval le 29 décembre. Ceux qui ont acheté des billets, ben vous allez recevoir à un moment donné une communication ou si vous appelez la Place Belle ou Evenco, on va vous dire
ils vont vous donner un rabais pour l'Elimination Chamber.
Je suis pas sûr que ça, c'est le cas, Kevin.
Non, mais dans ce qu'ils vont prendre l'argent puis ils vont le mettre sur le billet d'Elimination Chamber.
Non.
Ah, ils vont te rembourser puis ils vont te faire acheter?
Habituellement, moi, de la façon dont ça m'a été expliqué, habituellement, on te rembourse et puis parce que le show est juste annulé. Donc, on te rembourse. Faut que tu rajoutes des billets pour l'autre show si tu vas aller voir l'autre show.
Okay.
Hey, Breaking Point, écoute bien ça. Chris Jericho est en équipe avec Big Show contre MVP et Mark Henry.
C'était Jerry Show. Ouais.
Il y avait Kofi Kingston qui a battu le Miz pour le championnat des États-Unis.
Oh, ben, c'est un Dundee!
T'avais Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. Contre la D-Generation X Triple H et Shawn Michaels.
Wow!
T'avais Kane qui a battu le Great Khali dans la version 2009 de Omos contre Braun Strowman.
Okay.
T'avais Christian qui a battu William Regal.
Okay.
Et t'avais John Cena qui a battu Randy Orton puis CM Punk contre Undertaker.
T'as
c'est drôle de voir combien de ces gens-là sont rendus à AEW ou qui ont été à AEW. C'est ça. C'était la carte. Ça va pas être une grosse carte. Je m'attends à une bien meilleure carte pour Elimination Chamber. Puis c'est un des gros shows B de la WWE. T'sais, c'est pas un des quatre gros, mais en même temps, c'est quand même un des gros shows avec Money in the Bank.
Parce qu'il veut dire quelque chose, ce show-là.
Exactement.
Il est pas inutile.
Non.
Fait que tu l'écoutes parce que tu sais que l'histoire va avancer.
Exactement. Donc, voilà, c'est le quatrième pay-per-view qu'il va avoir à Montréal. Peux-tu me nommer les trois autres?
Survivor Series 97.
Je peux pas croire, ça va faire 25 ans au mois de novembre déjà. Ouais.
Survivor Series 97. Après
évidemment,
ça,
Breaking Point. Et celui entre les deux?
L'autre entre les deux. Entre les deux. C'est en 2003.
20 ans presque jour pour jour avant celui qu'on va voir à Montréal.
Mais tu vois, j'ai eu la bonne année. Là.
Oui.
C'est juste que j'ai un blanc sur le nom du pay-per-view. Mais ça me donne un demi-point. J'ai eu la bonne année, là.
Ben, y a pas de point, Kev. Calme-toi, là. C'est pas un... ça me donne un demi-point. Y a juste pas de point. No way out.
No way out, 2003.
Avec le match revanche entre Hogan et The Rock.
Ouais.
Steve Austin contre Eric Bischoff.
Bouh!
Donc, ça avait été... j'avais manqué cet événement-là. J'étais en Ontario pour le travail. Donc, je l'avais écouté à WWE Niagara Falls.
Yo, m'envoie là, semaine prochaine.
À Niagara Falls?
Ouais.
Fais attention de ne pas tomber dans les chutes.
Ouais, je vois pas.
Il y a aussi, dans les autres nouvelles, PCO. Ouais. Une excellente nouvelle. Puis CEO, enfin, j'ai eu une exclusivité sur une signature de contrat. Et là, là, pour ceux qui nous écoutent, là, arrêtez là, de taguer Sean Ross Sapp parce que je sors une nouvelle de contrat. Il n'y a plus de heat entre moi et Sean. Là, on s'entend bien. Il a retweeté mon tweet sur PCO. On a réglé nos problèmes. Là, ça fait un an là, quasiment. Là.
Sean qui?
Sean Ross Sapp. Il n'y a plus de problème. Mais bon...
Until there's one.
Ben non. Donc, PCO, la nouvelle là-dedans qu'il faut retenir, c'est que PCO a re-signé avec Impact Wrestling une autre année. Il est très, très, très content de ce contrat-là. Il dit qu'Impact a fait tout en son possible pour le re-signer. Et puis, ben, on le voit, là, c'est lui qui a sorti Honor No More. Il a battu Eddie Edwards dans le match qu'il a suivi dans les tapings. Donc, il espère toujours, tu sais, avoir une bonne position. Peut-être même, on sait jamais, peut-être même une run avec le titre d'Impact. C'est pas impossible.
Ben, je pense pas.
Mais je te dis, c'est pas impossible.
Ben, pourquoi? C'est pas méchant, là. Je l'aime, PCO, là. Tu sais, là, mais. Ben, mettons dans l'écosystème, là.
Ben, parce que moi, je pense qu'ils vont peut-être lui donner la belt à un moment donné.
Moi, je le verrais peut-être challenger
Alexander. T'as raison.
Puis qu'il prend un pin, ça va donner des
bons matchs. Ça pourrait être ça aussi. Mais je pense
qu'ils
vont.
Ils peuvent pas enlever le belt sur Alexander pour le mettre sous Bully Ray ou PCO.
Je vais m'exprimer autrement. Je pense qu'il va avoir au moins un title run. Un title shot.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Un programme avec le champion.
Ça, je suis d'accord.
Peu importe qui le champion va être dans la prochaine année.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Je pense que, tu sais, on va vouloir l'utiliser. Tu sais, à 54 ans, c'est peut-être une des dernières chances qu'il va avoir à ce niveau-là. Mais très, très, très content. En plus, il va avoir un maquilleur ou une maquilleuse privée.
Ah, pour elle?
Pour son maquillage de monstre de Frankenstein.
Ah,
donc voilà, très, très, très content. Très bonne nouvelle du côté de PCO. L'entente se termine le 31 octobre. C'est très drôle qu'il fasse un personnage de monstre de Frankenstein et que ça se termine le 31 octobre 2023. Donc voilà pour notre Québécois. PCO est encore là. Ouais, c'est honnêtement là, dans l'histoire de la lutte au Québec et même dans l'histoire de la lutte, point, un là. Des plus beaux retours. Tu sais, en anglais, on dirait comeback story, ouais. Là, un des plus beaux retours.
Tout ça a commencé contre Walter.
Ça avait commencé un petit peu avant.
Ouais,
ça,
mais c'est contre Walter que ça.
C'est là que ça a vraiment levé. Là. Non, écoute, ça, c'était complètement fou. Billy Gunn, ça
a brassé. Excuse-moi.
Oui.
Papa Fess.
Merci. Oui, Papa Fess, effectivement. Donc, Papa Fess, ben... Tony Khan, il n'y a pas permis d'y aller.
Je sais, ça, c'est dégueulasse.
Mais pourquoi c'est dégueulasse?
OK, so...
Non, attends une minute. Moi, je ne suis pas d'accord. En fait, je veux que tu m'expliques pourquoi c'est dégueulasse.
Mais c'est ça que j'allais faire. Je suis en train de dire, OK, non, ça, ouais, pour te l'expliquer.
Vas-y.
OK, tu te rappelles quand Impact avait prêté... Si je ne me trompe pas, c'est Christian Cage... Il avait fait un échange là, de deux lutteurs. Là. Je pense que c'était un pour un Hall of Fame.
Tu parlais avec qui? Avec WWE?
Avec WWE. Ils s'étaient échangé des lutteurs là, pour une shot. Là.
Ça okay. Se peut, ouais. Je me rappelle pas de ça, mais...
Mais oui, c'est arrivé.
Moi, le plus proche que je me rappelle, c'est Mickey James. Là.
Il y a eu ça, mais ça, c'est récent.
Ouais.
Mais moi, je te dis qu'à un moment donné, Impact, puis je retournerai pour trouver exactement l'échange, là, mais Impact avait permis un lutteur... Je pense que c'était Ric Flair. Puis, en tout cas, whatever. Puis... J'avais trouvé ça nice qu'ils ont fait un échange. Mm. Pour Billy Gunn, puis Billy Gunn, il overpasse le DX d'aujourd'hui. Les gens auraient chanté Scissor Me. Mm-hmm. Comme tout le monde de Brooklyn aurait chanté pour The Acclaim pour Billy Gunn au lieu de chanter pour DX. Là. Mm-hmm. Ça, c'est un fact. Là. Fait que Tony Khan n'avait pas besoin de dire « Yo, on a besoin que tu mentionnes AEW. » Je trouve ça tellement... enfantin. Ben, au pire, propose un trade. Yo, tu m'envoies quelqu'un, puis à un moment donné, quand je te rappelle, il y a une clause qui dit si je demande d'avoir telle personne pour tel rôle, tu me l'envoies. J'ai trouvé ça vraiment petit de dire, oh non, mais si on te l'envoie, faut que tu dises que c'est AEW, là.
Ben, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que il a uniquement demandé ce que la WWE a donné à Impact il y a un an, avec Mickey James. C'est ce qu'Impact voulait. Vous allez la mentionner comme étant la championne féminine d'Impact. Vous allez mentionner notre nom à la télé. Et ils l'ont fait. Alors Tony, lui, il se dit, ben regarde, pourquoi moi je demanderais pas la même chose? Pourquoi il me donnerait pas la même chose à moi? Ils veulent avoir Billy Gunn. J'ai pas de problème à le laisser aller, mais faites juste mentionner qu'il vient des EW. Qu'est-ce que ça coûte à la WWE de le faire? Parce que, comme tu l'as dit...
Parce que c'est pas la même chose Impact puis AEW. C'est pas le même niveau, pas en tout, là. C'est pas la même rivalité non plus.
Ben, si c'est pas le même niveau, raison de plus de bord pour que Tony Khan le demande ou fasse comme, ben vous l'aurez pas de bord.
Ben, en tout cas, moi là, j'ai vu ce moment-là comme quand Eric Bischoff a fermé les portes quand DX en venait avec le tank. Si Eric Bischoff avait laissé...
Là, c'est pas...
Moi, je vois la même chose parce que moi, je pense que les chants pour The Acclaim auraient takeover segment. Puis qu'ils auraient été obligés d'acknowledge. Parce que c'était tellement. Puis ils sont pas à genre Poughkeepsie, là. Ils sont à Brooklyn. Où il y avait eu. Où Acclaim a gagné le championship. Où Papa Fess a eu le.
Mais c'est de la business.
Je sais. Mais c'est de la business.
Billy Gunn est signé avec AEW.
Non, mais.
Par contrat, il a pas le droit d'aller ailleurs.
Je sais. Mais moi, qu'est-ce que je dis.
Pas WWE.
Moi, qu'est-ce que je dis, c'est si Tony Khan avait laissé Billy Gunn y aller, ça aurait été la bonne business pour lui. Parce que lui, il aurait takeover le segment.
Mais il aurait pas takeover le segment.
100% Billy Gunn aurait... Ce segment-là de 5 minutes, takeover le segment.
Billy Gunn, il aurait eu des chaînes de Scissor Me jusqu'à temps que Triple H prenne le micro.
Puis qu'il acknowledge les cris de Scissor Me.
Mais il l'aurait acknowledge, mais qu'est-ce que ça fait à AEW, les Scissor Me?
C'est le truc le plus over à AEW.
Je comprends. Mais qu'est-ce que ça leur donne, ça, de que la full chain Scissor
Me? C'est un méga statement.
Est-ce que le fan de lutte qui connaît juste WWE, il comprend-tu pourquoi il crie Scissor Me?
Ben, le fan de lutte qui connaît juste WWE, il voit que le dude qui est pas là d'habitude a cette réaction-là, puis il va aller checker pourquoi.
Ça, c'est ce que tu penses.
Ben, c'est ce que c'est. Mais non, ben, je suis pas d'accord.
Ça veut pas dire qu'il va aller checker ce qu'il pense.
Ben, je suis pas d'accord. Ben, si, mettons, le fans qui écoute WWE, il attend AEW, il veut-tu aller checker c'est quoi?
Ben, au moins, il va comprendre qu'il vient d'une autre compagnie, puis qu'il lutte dans une autre compagnie en ce moment.
Ben.
Moi, je pense que tu mets trop d'emphase sur le Scissor Me.
Non, moi, je mets de l'emphase sur la réaction que ça l'aurait eu, sur le segment de 5 minutes qu'ils ont eu à la fin, quand les 4 ont pris le micro pour dire 2 lignes chaque, puis que Billy Gunn aurait take over segment.
Tony Khan, la WWE, il fait pas de cadeaux. Surtout pas en ce moment. Il y avait pas à faire de cadeaux à la WWE.
Mais c'est pas un cadeau. Toi, tu le vois comme un cadeau pour la WWE.
Ouais.
Moi, je le vois comme une stratégie pour mettre mon empreinte sur un show de la WWE. Je le vois pas comme un cadeau. Là. Je fais pas un cadeau à Billy Gunn ou à Triple H. Là.
Moi, je trouve que tu surévalues le Scissor Me versus de donner les trois lettres de la compagnie.
Non, je suis pas d'accord. Si c'était genre dans un trou perdu là, puis que c'était à Brooklyn.
Il y aurait une belle réaction, je comprends.
Il y aurait takeover.
Mais c'est quand même une réaction qu'on aurait vue à la télé de la WWE.
Exact.
Il y a personne qui aurait nommé la compagnie.
Oui, mais c'est parce que toi tu mets de la face sur nommer la compagnie.
Mais moi ça a plus d'importance que le Scissor Me.
Bah, c'est pas ça que je dis. Je dis que ton stunt c'est oui, je le laisse aller, puis il va takeover ton segment chez vous.
Ça me donne rien, ça, moi.
Ben, c'est pas vrai, ça.
Ben non, ça me donne rien.
Ben,
oui, c'est vrai.
Ben, ça donne bien plus que le...
Ça, c'est ce que tu penses.
Mais
on le saura jamais. On le saura jamais. Mais on a une divergence d'opinion là-dessus. Moi, je trouve que ça aurait été plus important qu'il nomme All Elite Wrestling qu'il laisse aller ça à cause du Scissor Me. Parce que tu sais jamais comment la WWE va éditer
c'est,
ça.
Ben, éditer. Ils peuvent pas éditer, le show est live, là.
Parce que ils mettent des fans qui crient plus fort.
OK, je comprends,
qui dit qu'il aurait pas voulu enterrer les chants de Scissor Me avec des chants de full plus
non
fort.
Non seulement ça aurait paru, puis là, t'aurais encore plus gagné. Parce que là, WWE veulent t'enterrer dans... Fait que, tu sais,
t'aurais pas gagné rien.
Ben oui.
T'aurais gagné. Le monde aurait jasé de toi pendant 3 jours.
Ben non,
ça aurait été fini.
Ben non.
Ouais. Bref, c'est la décision qu'il a prise et c'est la raison pourquoi Billy Gunn était pas là. Toujours parlant des EW, CM Punk et EW, ça serait peut-être bientôt fini. Donc, on parle présentement que, bon, depuis le départ de A-Steel, depuis qu'on a congédié A-Steel, on vous en a parlé la semaine dernière, ben, ça a l'air que AEW et CM Punk seraient en pourparlers pour racheter le contrat de CM Punk. C'est Dave Meltzer qui rapporte la nouvelle en disant que ni CM Punk ni AEW ont commenté ou ont... c'est quoi le terme que je cherche? On dénie.
Démenti.
On démenti, merci Kev. On démenti la nouvelle. Donc, habituellement, quand tu démens pas une nouvelle, c'est parce que tu veux juste pas en parler, mais que la chose arrive. Donc, c'est pas surprenant d'entendre ça non plus. Et le sur quoi là, ça sera en train de où les négos là, tournent autour beaucoup de la clause de non-compétition. Donc, est-ce qu'on va laisser CM Punk aller à WWE dès que le contrat va être acheté? Est-ce qu'on va lui demander une clause en compétition de 6 mois, de 1 an, ou juste pour la WWE? Donc, c'est là-dessus, parce qu'évidemment, ce que Tony Khan ne voudrait pas, j'imagine, c'est d'avoir Punk, de racheter le contrat de Punk et que le lendemain, il se présente à Raw ou à SmackDown ou peu importe. Maintenant, est-ce que la WWE serait intéressée de le revoir? Ça, c'est une autre nouvelle. C'est un autre, pas une nouvelle, mais c'est une autre affaire. Est-ce que malgré tout ce qui s'est passé, Triple H, tu sais, le ramènerait. Toi, c'était Triple H, tu ramènes-tu Punk?
À toi, c'est un... Non. J'ai le mot de dire. J'ai de dire que quelqu'un, c'est un cancer, là, mais je veux dire, pomme pourrite. Là, c'est une pomme pourrite. Il est inutile. Alors, j'ai vu une vidéo, là, c'était le contraste de lui en 1 an, là. C'est dégueulasse, man. Ses matchs étaient même pas si bons que ça, first. Ses promos étaient bonnes, là. C'est ça, on pourra jamais lui enlever que ses promos étaient bonnes. Mais il y avait pas des matchs qui allaient changer la face de la lutte, là. OK? Par la suite, je trouve que son attitude, c'est égocentrique. Puis c'est pas un team player que t'as besoin dans ton équipe. Puis ils en ont pas besoin de CM Punk, là. Parce que CM Punk a bougé les trucs pour AEW un peu.
Mais non, beaucoup.
OK.
Il est devenu la personne qui attirait le plus dans la compagnie.
Est-ce qu'ils ont fait 1 million à chaque semaine avec CM Punk?
Pas au niveau des codes d'écoute.
C'est ça non, que je parle.
Moi, je t'en parle au niveau de l'argent.
Oui, je sais, mais moi, je parle au niveau des codes d'écoute.
Au niveau des codes d'écoute.
Ça va rien changer. WWE, il n'y a pas besoin d'argent de plus de CM Punk. Là. C'est pas, ça va être une goutte dans un océan. Là. L'argent de plus de CM Punk. Là. Il va peut-être vendre des t-shirts, là, mais that's it. Fait que pourquoi tu ramènerais un gars qui est aussi loose cannon puis que... il n'est même pas loose cannon, il est high maintenance.
Mais il y a probablement aussi beaucoup de monde dans le vestiaire de la WWE qui ne voudrait pas avoir CM Punk.
Mais parce qu'il va prendre la place de parce quelqu'un. Puis avec l'attitude de marque qu'il a, il ne mérite même pas sa
avec
place.
Avec l'attitude, dis-toi qu'il y a des gens dans ce vestiaire-là qui sont amis avec les gens du vestiaire des EW aussi.
Ils savent.
Donc, ils savent, tu sais. Mais de toute façon, tu sais, quand Punk était disponible, quand Fox voulait Punk il y a quelques années, tu sais, quand il était venu... WWE a rien voulu savoir.
Ouais.
Et même si Triple H ramène des gens là, en ce moment, je serais bien surpris qu'il ramène Punk. En même temps, je comprends de Tony Khan de vouloir se protéger si jamais il allait faire le move. Tu prends pas de chance.
Moi, je suis Tony Khan, je le paie pour qu'il reste chez eux.
Ben ça, c'est l'autre option. C'est si Punk, si le clan Punk veut pas négocier correctement, ben reste chez vous.
Reste chez vous, pis t'as le droit de rien faire, t'as le droit d'aller nulle part.
T'as le droit d'aller nulle part. Donc, voyons voir comment ça va se finir, mais je pense qu'on va arriver à une entente à un moment donné, puis son contrat va être acheté. Et ça me surprendrait pas que Punk reste chez eux quand même.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Du côté des blessures, le Miz, ça a été dit que le Miz avait une blessure. Il a pas lutté depuis le 1er octobre. Donc, il y a une blessure. J'essaie de retrouver où...
Le Miz, c'est un autre. Hein? Il a pas besoin de lutter.
Ah oui, il y a une blessure. Il y a une bursite, en fait.
Mais le Miz a tellement pas besoin de lutter. Là. Le Miz, il peut juste... faire des promos.
Mais je comprends. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des promos qu'il faut qu'il mène à un match. Tu comprends? Il n'y a pas besoin de lutter.
Mais ça peut mener à un match de d'autres gens. Parce que lui, il peut tout le temps...
Ah, mais là, en ce moment, il est là aussi. On le laisse parler, mais il y a une bursite. Il n'a pas lutté depuis le 1er octobre, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans un ring. Tommaso Ciampa également, c'est drôle, parce que les deux étaient les deux étaient un peu en équipe. Donc, Tommaso Ciampa, qui, lui, de son côté, a eu une blessure à une hanche. On ne sait pas quand il va revenir. Il n'a pas lutté depuis le 17 septembre, et on ne le voit plus à la télé depuis le 22 août dernier. Donc, bon, il n'a pas lutté à la télé depuis le 22 août, mais son dernier, c'était un house show. Le 17 septembre, on sait pas quand il va être de retour, mais c'est clair que avec Gargano, avec Le Miz, Ciampa qui est là, il y a quelque chose qui va finir par se faire quand tout le monde va être en santé.
Gargano, ça, en ce moment, il est whack. I'm sorry. Mais il est plate. Mais,
pourquoi tu dis qu'il est plate?
Parce que le dude, c'est Johnny Wrestling. Mm. OK?
Il était... Mais oui, mais on le met dans une rivalité avec un gars qui peut pas lutter.
Attends.
Puis qui fait des promos.
Sa force. Ben, pourquoi il l'a mis là-dedans?
Bon, mais ça, c'est pas de sa faute à lui.
Ouais, mais c'est plate en ce moment. Ça, son skills de sports entertainer, là, de promo, ces affaires-là, était à son maximum avec Austin Theory puis Candice. Mm-hmm. Même avec Ciampa, il était pas un très bon promo. Là.
Je l'entends avec toi.
Mais avec Austin Theory puis Candice, on dirait qu'il avait comme trouvé une petite niche. Puis Indy Hartwell, il avait trouvé une petite niche. Là, il essaie de reproduire qu'est-ce qu'il avait réussi à produire avec lui puis l'autre partner, le weird là.
Dexter Lumis
à NXT, puis d'essayer d'aller chercher un peu ce genre. Mais le Miz est trop fort en promo pour lui. Fait quand il parle à côté du Miz, il a l'air du dude qui essaye. Quand il était dans le ring, lui, Miz, puis R-Truth, yo, c'était pas bon
c'était,
pour...
C'était le troisième.
C'était pas bon pour Johnny Gargano.
Non, ça, je suis d'accord avec toi.
Fait que...
Moi, je sais pas pourquoi, mais moi, je le recréerais, le The Way.
Ben oui.
Sur le main roster.
Ben, juste parce qu'il voulait juste pas le faire parce que l'autre, il est heel.
Qui est heel?
Austin Theory.
Je comprends.
C'est juste pour ça.
Mais trouve une façon. Austin Theory, là, depuis Triple H est là, il a pas nécessairement le même push.
Non, mais parce qu'il est pogné avec le Money in the Bank, c'est pour ça.
Ben, je comprends, mais je pense que éventuellement on pourrait le tourner babyface, l'envoyer... The Way, au départ, il était heel. Oublie pas ça non plus. Là.
Ouais, mais les quatre étaient heel. Là, c'est juste un qui est heel.
Non, exact. Mais je pense que qu'il soit heel ou babyface, j'aimerais ça revoir. Je pense que les quatre ensemble, puis ajoute Dexter Lumis, si tu veux, là-dedans, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec The Way sur le main roster qui pourrait bien fonctionner. Ça marchait bien avec les vignettes à NXT. Il y a des vignettes à faire. Je pense qu'il y a quelque chose à recréer ici qu'il y a 1,5 million de personnes qui n'ont jamais vu.
Mais 100%, là.
Je pense que ce serait une belle façon de récupérer tout ce monde-là puis de donner des bons matchs quand même au Gargano. Candice est capable de lutter très, très bien.
Puis elle a fait une bonne promo à
Ça Rock. Permet à Lumis de teamer avec des gars comme Theory et Gargano qui peuvent un peu plus le traîner dans le ring. Ouais. Tu gardes quand même ce personnage-là. Bref, moi, je suis pas au The Way. Willow Nightingale qui a signé officiellement avec AEW. On la voyait de plus en plus. Ouais. Elle avait de plus en plus de matchs, des victoires, donc c'était une question temps avant que ça arrive.
C'est correct.
Ben oui, moi je l'aime beaucoup. Elle dégage une très très belle énergie, Willow Nightingale. On l'avait déjà booké à Femme Fatale d'ailleurs, puis ça avait très très bien fonctionné. Et il y a également Kingdom, donc on vous en a parlé la semaine dernière, qui avait fait leur début à AEW. Par contre, ils n'avaient pas encore signé de contrat. Ça serait maintenant officiel. Ils ont signé un contrat. Cependant, Maria Kanellis Bennett a signé un contrat uniquement comme talent, donc pas comme lutteuse, uniquement comme talent hors ring, c'est-à-dire comme géante, en fait, là, si tu veux. Et puis, ça serait FTR qui aurait beaucoup poussé pour que AEW signe Kingdom.
OK.
Écoute, on en a parlé brièvement la semaine dernière. Moi, je pense qu'ils ont quelque chose à offrir dans la division par équipe, mais ça revient toujours un peu à la même chose. Il y a beaucoup de monde à AEW. Tout le monde... a pas le temps. Tu sais, je lisais l'entrevue de CJ Perry, Lana,
ouais,
qui disait que ben Tony Khan il a ses préférés, comme Vince avait ses préférés, comme Triple H a ses préférés. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que c'était pour arriver ça tôt ou tard, là. Donc, voilà, toujours dans le giron de la AEW, NXT contre Ring of Honor. Donc, mardi dernier, on fait un... on amène du monde du main roster sur le show d'NXT parce que AEW avait un Dynamite le mardi. Et là, ben, une fois que Ring of Honor a annoncé son pay-per-view du mois de décembre, le 10, ben, NXT annonce également un gros show le samedi 10 décembre. Pas en même temps. C'est Final Battle de Ring of Honor à 4h. NXT va être le soir. Donc, NXT s'en va en opposition avec UFC 282. Je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est offrir une opposition de lutte. C'est pas tout le monde qui va écouter l'UFC, mais ils veulent offrir une opposition de lutte. Donc, si t'as un 3 heures seulement à donner à de la lutte ce week-end-là, ben tu vas être obligé de choisir entre NXT ou Ring of Honor. Puis ça se peut qu'il y en ait qui choisissent NXT au lieu de Ring of Honor. Je pense que c'est ça qu'on veut faire. Alors vraiment, tu sais, ça revient à ce que je te disais tantôt. Ils font pas de cadeau à Tony. Tony a pas de cadeau à leur faire. Puis ça, c'est un exemple qu'ils font pas de cadeau
à Tony. Mais moi
je le comprends. Je le comprends.
Mais je dis pas qu'ils donnent des cadeaux. C'est
non,
ça
non. Mais c'est clairement, ils en donnent pas. Puis ça, c'en est un autre. Exemple, dernière nouvelle. La fille du rock qui a débuté à la télé.
Ouais.
Donc, Eva Rain, de son vrai nom Simone Johnson, qui a commencé avec le clan de Schism à NXT, oui, avec Joe Gacy, ton préféré. Ouais. Joe Gacy, et puis Diad, et j'en oublie un. C'est qui le troisième membre du groupe?
T'es un peu off de ça, moi.
Gonzalez!
Mais au moins, elle a fait une bonne promo, mais elle disait des mots compliqués, man.
Mais en fait, oui, c'était, ça paraissait c'est une promo.
Bien appris par
cœur. Bien apprise. Elle l'a livré le mieux, je pense, qu'elle pouvait livrer ce genre de promo-là. Ça venait pas naturellement. Ça paraissait. Mais elle a pas nécessairement mal paru, loin de là. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'elle va être capable de faire dans le ring. Mais c'est sûr que, à 21 ans, c'est la fille du rock. Elle va avoir tous les yeux du monde de la lutte braqués sur elle pour chaque petite étape qu'elle va faire à NXT. Puis là, ça, c'est le début. Là. Tu vois, on fait pas des nouvelles à chaque fois que quelqu'un commence à la télé d'NXT, mais la fille du Rock, c'est l'équivalent du fils de Wayne Gretzky qui commence dans la Ligue nationale.
Ouais.
Tu sais, il a jamais joué dans la Ligue nationale, il joue au baseball, en fait. J'ai une carte du fils de Wayne Gretzky au baseball. Yo. Bref, ça va être à suivre. Elle a commencé en février au PC, février 2020. Elle a eu une blessure à un genou, puis en juillet dernier, elle a commencé à travailler sur les house shows en Floride d'NXT. Donc, elle a eu une bonne réaction de la foule. La foule était contente de voir que c'était elle. C'était une heel, mais bon, fallait s'attendre quand même à ce qu'elle ait une réaction positive. Lutte canadienne.
Wow!
Quelqu'un m'a écrit, je m'appelle Piki, pour me dire qu'il y avait eu l'hymne national canadien dans la tête pendant quelques heures. Je vais vous parler de AEW toujours avec le Canada, parce que AEW à Dark mardi, il y avait d'autres matchs qui avaient été enregistrés à Toronto avec des Canadiens. Donc Lance Archer a battu Isaiah Brown, mieux connu sur le circuit indépendant sous Isaiah Bronson. C'est un gars de Toronto. C'est un gars de Toronto qui a lutté beaucoup à Montréal également dans les dernières années. Moi, je l'ai connu ici sur le circuit indépendant, ici au Québec. Écoute, c'était presque un squash. Rien de mauvais, rien de spectaculaire, mais dans un presque squash. Tu sais, je veux dire, si tu sais bumper, puis tu fais pas d'erreur en bumpant habituellement, tu vas bien en sortir. Fait que tu sais, t'as pas vraiment une chance de
l'échapper.
De l'échapper, mais en même temps, tu iras pas chercher l'attention du fan non plus, tu sais. Match de 3 minutes 39. Zach Clayton a battu Shane Sabre. Sabre, qui est un gars d'Ottawa qui lutte depuis 10 ans. Il y en a eu un petit peu plus que Brown, mais encore là, c'est le même constat. Rien de mauvais, rien d'extraordinaire. 3 minutes 57. Là aussi, il était plus limité. Il en a fait un petit peu plus, mais encore là, il était un peu plus limité dans ce qu'il pouvait faire. Tina a battu Alexia Nicole. Alexia Nicole, c'est ma championne à Femme Fatale.
Nice.
Fille de Toronto, elle a eu une très, très bonne réaction de la foule. C'est celle qui était le plus over avec la foule de tous les Canadiens, Canadiennes. Puis c'est également celle qui a le mieux paru là, des trois premiers. Puis celle qui avait une meilleure personnalité à l'écran. Ça se voyait. Elle perçait l'écran un peu plus. Le match a pas du tout été comme celui avec Jody Trett que je vous ai parlé la semaine dernière. Ça a très bien été. Elle a bien paru, Alexia Nicole. Très, très fière. Par contre, elle a même pas eu 3 minutes. Mais tu vois, en 2 minutes 51, son charisme a paru. Et ça, c'est important parce que tant t'as pas beaucoup de temps, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on va se rappeler de toi. C'est pas tout le monde à qui c'est donné ce charisme-là. Puis Athena lui en a donné plus que les deux matchs d'hommes que je vous ai parlé juste avant. Dan Hansen a battu James Stone. James Stone, c'est un gars de Montréal qui lutte depuis presque 20 ans. Il a lutté longtemps à l'NCW. Il habite à Ottawa présentement. Lui, il a eu seulement 2 minutes 18. Donc, il a pas pu vraiment... Honnêtement, il a fait le mieux qu'il a pu. La première chop, il a donné une série de chops. La première était vraiment mauvaise, mais les deux autres, il a vraiment, vraiment bien été. Il a essayé d'aller chercher sa heat en imitant Dan Hawson. Par contre, il a perdu l'équilibre sur le finish. Fait que ça a pas bien sorti. Mm. Donc, en 2 minutes 18, tu vois, on s'en rappelle, mais malheureusement pour les mauvaises raisons. Et puis, j'en profite pour mentionner que Dan Hawson est souvent à Montréal. Tu sais pourquoi?
Non.
Sa conjointe, c'est une dénommée Loulou, en fait, un nom de scène, Loulou la duchesse du... Loulou la duchesse de Rières, qui est une artiste de burlesque d'ici de Montréal, quand même 40 000 abonnés sur Insta, et elle est originaire de Montréal, donc Dan Hawson, et souvent, c'est pour ça, des fois, vous allez voir un Dan Hawson dans un magasin comic books à Montréal, ben c'est parce qu'il est souvent de ce côté-ci de la frontière. Et finalement, Serena Deeb et Emi Sakura qui ont défait Casey Spinelli et Taylor Rising. C'est le match qui a eu le plus de temps, 4 minutes 34. Spinelli, Taylor Rising, deux filles de Toronto, des environs de Toronto. Spinelli qui est une vétérane. C'est elle, Spinelli, qui avait fait la policière avec Zach Patterson à SmackDown. À Montréal, il y a eu un spot, tu sais, le spot où un lutteur rentre dans le ring, va chercher son partenaire, le ramène dans le coin, puis tag.
Ouais.
Ben, ils ont fait ce spot-là. Donc, Spinelli va chercher Rising, ramène Rising dans le coin, sort du ring pour taguer légalement. Rising a oublié de taguer. Donc, elle est sortie du ring, elle a roulé en dessous. Tu vois Spinelli qui lui dit tag, tag, tag. Elle se remet un peu debout, réalise qu'elle a pas tagué, rentre dans le ring, tag. Ça n'a pas super bien sorti. J'ai pas parlé à Spinelli, mais je peux pas imaginer qu'elle était contente de ce spot-là. Et puis, Spinelli a beaucoup mieux paru overall dans le match. Mais personne n'a mieux paru qu'Alexia Nicole sur cette épingle-là. Donc, si je résume tous les matchs qu'il y a eu des Canadiens à AEW à Toronto, Vanessa Craven, Celestia Sparks, Alexia Nicole et les jumeaux Varo, c'est les cinq personnes que moi je retiens, qui ont retenu mon attention, et quand même trois femmes sur cinq, donc c'est pas à dédaigner. Lutte québécoise.
On recommence.
Lutte québécoise.
Laissez pas tranquille.
Une petite note toute gentille pour dire que c'est la fête aujourd'hui. On est mercredi, là. C'est le mercredi. C'est la fête d'une des plus grandes fans de lutte. Tu l'as rencontrée, Kev? Christiane.
Oui.
La madame qui serre la main puis qu'on peut pas retrouver sa main. Oui, je le sais. Mais Christiane, honnêtement, c'est une madame qui est spéciale, mais c'est une fan de lutte. Moi, ça fait 21 ans que je suis sur la scène. Elle allait déjà voir la lutte dans les années 80. OK? Cette madame-là, oui, elle est intense, oui, elle est, mais elle aime la lutte, puis elle est là, puis bon, tu sais, ça en prend des fans, des ultra fans là, comme Christiane, et c'est son anniversaire aujourd'hui, alors je voulais prendre la peine pour lui souhaiter un beau bonne fête. Tu sais quoi le nom de famille de Christiane? Elle s'appelle, et je vous mens pas là, Christiane Drogue, Drogue.
Peux-tu la laisser tranquille, man?
Bonne fête, Christiane, le Japon. Le Japon, Kev, ça brasse dans le dossier de Carl Anderson.
Ben là, ils ont dit donne-moi la ceinture, bro. Ils ont dit, bro, je sais pas c'est quoi ton problème, là.
Parce que là, ils ont fait une vidéo.
Petit FedEx, là. Là, tu me fais chier, là. C'est ça qu'ils sont en train de dire.
Ils ont fait une vidéo, Carl Anderson et Luke Gallows, où ils disent que New Japan n'a pas passé par les bons circuits pour le booker pour le show du 5 novembre. Alors là, New Japan, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils ont dit non, c'est pas vrai ça. Nous, on y a parlé à Carl Anderson et tout était correct. Et là, une semaine après, parce que c'est ça qu'ils disent en fait, ils ont dit qu'ils avaient parlé avec Anderson et que tout était correct. Et la semaine suivante, ben ils signaient avec la WWE. Mais vu que c'était correct, puis qui avaient négocié avec lui, ils ont annoncé le match le 4 octobre. La semaine d'après, ils signaient avec la WWE. Mais eux autres, ils s'entendent à ce qu'ils respectent sa parole. Évidemment, WWE le book sur le show en Arabie Saoudite. Anderson tente de se tirer d'affaires là-dedans. Et là, ben, on lui a dit, ben écoute, moi, c'était pas pour faire le show, ben amène-nous la belle, puis that's it, là, c'est fini. Et à quelque part, si ce que New Japan dit est vrai, ben ils font bien. T'as dit oui, c'était à toi de t'assurer en signant avec la WWE que tu nous avais dit oui. Rappelle-le, puis dis-leur que t'as au moins une date à faire. Tu sais, c'est pas correct, ça. C'est pas la façon que ça devrait être fait. Malheureusement, ça a l'air que je pense pas que Anderson va être le 5 novembre à.
Ben, moi, je pense qu'Anderson s'en bat un peu les coronesses, là.
Ben, si c'est le cas, c'est un. Ben oui, pis sûrement. Mais en même temps, c'est pas
c'est
correct.
C'est le never open weight, là.
Mais ça devrait pas se faire comme ça.
Non, ça devrait pas se faire comme ça, je suis d'accord avec toi. Je te dis tu juste comprends? Que le patinet s'en bat les coronesses.
À la limite, soit up front. J'ai signé avec la WWE, je pourrais plus être votre champion.
Mais peut-être que ça Désolé. S'est fait t'sais, rapidement ou peut-être que.
Je sais pas. Mais ça regarde pas bien, mettons, pour Anderson. Peut-être qu'il n'y a pas tous les torts là-dedans, mais ça regarde pas bien pour Anderson. Le New Japan a dit que dernièrement, ils ont essayé de contacter Anderson puis qu'ils n'ont pas de réponse. Donc c'est comme ça non plus, ça paraît pas bien.
Oui, ça c'est wack.
Je veux te parler également qu'on connaît maintenant la finale le match pour la finale du premier titre féminin de New Japan. Mayu Iwatani contre Kairi, donc évidemment l'ancienne Kairi Sane.
C'est elle qui va avoir le titre, là, je présume. Là.
Je pense bien que oui. Je pense bien que oui, parce que c'est le plus gros nom à l'extérieur du Japon. C'est celui qui va faire le plus jaser. Ça va se passer le 20 novembre. Mayu Iwatani, qui est une des meilleures lutteuses au Japon depuis plusieurs années. Donc, ça devrait être tout un match. Donc, voilà, c'est la finale pour le tout premier titre féminin de New Japan, le Mexique. Et je vous en parlais la semaine dernière, Elio Del Vinquinho qui travaillait pour avoir son visa américain, ben c'est fait. Donc, il a eu son visa, c'est son permis pour travailler aux États-Unis. Lui qui a jamais travaillé justement aux États-Unis. Donc, ça va être une première pour lui quand il va commencer à avoir ses premiers bookings. Un des meilleurs workers au monde. Tu vois son match avec Ray Phoenix que je vous parlais la semaine dernière. Meltzer lui a donné 5 étoiles. Donc, tu sais, ça a été un gros match. Ça va être une grosse star. Voyons voir où il va travailler. J'imagine avec Triple A. Triple A est associé avec qui en ce moment? Avec AEW.
Tout le monde sur
avec
WWE,
Impact, ouais. Donc, tu sais, il va avoir des bookings ici, c'est sûr et certain. Donc ça va être intéressant de voir qui va être le premier à l'amener puis avec qui on va le faire travailler. Mais suivez ce gars-là de près. C'est une grosse star en devenir. Vous aimez les Ray Phoenix, les Penta et compagnie, ben vous allez aimer L.I.O. Del Vinquinho. Coup de cœur. Kev, j'ai dit ça quand tu me laisses un silence comme ça.
Mais non, mais je pense que t'allais commencer.
Sammy et les Usos. Moi, ben, tout
c'est
ce
le temps bon.
C'est tout le temps bon. Sammy et Jay, là, c'est...
Non, mais...
Oh.
Puis ça fait 2 ans que Roman est Roman, là. Mm. C'est plus que 2 ans, mais que la feud dans le LNSL de Roman et puis Jay. Puis... Yo, le parcours que Jay a fait depuis ce Hell in the Cell-là, c'est fou. Moi, j'adore ça.
La poignée de main de Sammy et Jimmy, faut essayer de faire ça, toi puis moi, maintenant.
Non, moi, je fais juste des scissor me.
Tu y vas pour la paresse. C'est une chorégraphie de TikTok, ce qu'ils font.
Moi,
c'est compliqué.
Moi, je suis scissor me.
C'est compliqué.
J'ai aimé, j'ai vu quelques trucs de Halloween Havoc, là.
Ouais.
J'ai aimé Brown Breaker, j'ai aimé le ladder match, à part le gars qui a essayé de tuer le gars dans la foule, là.
Moi, j'ai aimé Brown Breaker contre Ilya Dragunov puis JD McDonough, ben qui est l'ancien Jordan Devlin.
Exact.
Ça a été un excellent match.
Dragunov, j'espère qu'ils vont le mettre avec les Brawling Bruce, là.
Ben, il pourrait fitter là-dedans.
Ben, parce que là, il manque quelqu'un, fait que c'est Dragunov.
Brown Breaker va être une star.
Ben oui, 100%.
Ça, c'est 100%. J'ai aimé le match d'échelle.
Ouais.
Mais, OK, bon, beaucoup de gros spots. OK, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros spots dans le match d'échelle. Mais, par contre, j'ai aimé qu'on donne le titre à Wesley.
Ouais.
Tu sais, ça a été un beau moment. La
il
foule,
mérite, là.
Il mérite. La foule était vraiment derrière lui, Wesley, qui est, on se rappelle, l'ancien des Radicals. Donc, Metric Williams, qui a failli tuer Oro Mensah.
Yo.
Oro Mensah monte sur l'échelle. Trick Williams pousse l'échelle. Donc, Oro Mensah est censé sauter sur tous les gens qui l'attendent à l'extérieur. Mais Trick Williams, il pousse l'échelle. Puis à un moment donné, il arrête de pencher l'échelle au moment où le gars, il saute. Fait que de un, l'échelle était un peu chambranlante. De deux, le gars était pas rendu où il pensait être pour sauter. Mais son élan est déjà pris. Fait que lui, il s'est jamais rendu. Il est tombé sur le dessus du troisième cadre. Puis il a buncé ses autres gars à l'extérieur. Ça pourrait être très, très, très dangereux.
Il y avait une couple d'affaires que j'étais comme OK, ben, là. Faut faire attention, là.
C'est parce que c'est ça la lame à double tranchant, ce genre de match-là à NXT. C'est pas toujours des gens qui sont habitués de travailler avec des objets, travailler avec des armes. En même temps, s'ils font jamais, ils gagneront jamais d'expérience.
Exact.
Mais c'est juste qu'il faut faire attention parce qu'il y a des... Écoute, là, ce match-là, là, il aurait pu être dangereux pour Oro Mensah. Nathan Fraser, l'ancien Ben Carter, ouais, là, qu'on avait vu à AEW, entre ouais, autres. Gros, gros match. Moi, ouais, ça a été mon breakout star là, du show.
C'est un bon show, pour vrai.
Spanish Fly du deuxième. Il y a eu un gros dive à l'extérieur sur Von Wagner. L'échelle a brisé en deux. Pour vrai, là, ça a été un gros, gros match pour lui. Wagner qui a pitché Wesley du ring, ouais, sur la table des commentateurs. Puis il a juste bounce sur le dessus de la table, puis il a revolé en arrière, la table n'a jamais brisé. Fait qu'il y a eu des gros spots, pas toujours super safe, mais quand même, ça a été un bon match.
J'ai adoré la promo de Dominic. I'm Eddie Guerrero's generation. Ouais. Nah, Eddie Guerrero's Dominic. Ça, c'est très bon. J'aime beaucoup Seth Rollins et Mustafa Ali, parce que il nous donne le goût de voir le match. Il nous donne pas le match cold, là. Il nous donne le goût de voir, puis ça va être un excellent match.
J'aime qu'on mette Rhea aussi over avec un gros power
ben
slam,
oui,
sur Gallows.
Ben
c'est,
oui,
elle qui fait gagner Balor.
Ben oui.
Mais à un moment donné, il va falloir qu'un gars lui donne la réplique, là. Elle pourra pas toujours avoir l'over.
Ben, ça dépend. Si c'est la boss, là, puis qu'elle réussit toujours à envoyer ses minions.
Mais oui, mais à un moment donné, les fans vont vouloir que ce soit elle qui paye le prix.
Ouais, mais tu peux faire comme ils ont fait avec Dixie Carter, man. Ils l'ont passé dans la table une fois.
Ben, c'est correct. Je veux juste dire, à un moment donné, il va falloir que ça arrive. C'est juste ça.
J'ai adoré R-Truth, les deux interventions, celle de NXT puis celle de WWE.
C'était le R-Truth. Tu sais, il n'y a pas besoin du titre 24-7 en tout pour être divertissant. D'ailleurs, ce titre-là, il rentre juste sur les house shows. Hein. Depuis Triple H est là, on le voit plus à télé. C'est juste un titre de house show.
J'espère.
Il a changé, là. Il y a eu des nouveaux champions, là. Mais c'est juste sur les house shows. Puis c'est correct.
Mais j'espère.
Sur les house shows pour les enfants, j'ai pas de problème à avoir ça, là. Un titre de house show.
Ouais.
Mais R-Truth, moi c'est quand le Miz il dit, il parle de, I want the truth, puis là lui il arrive, puis ben, c'est, tu m'as appelé, je pleurais, bon. Je pleurais. Oui, continue. T'as-tu d'autres choses?
Ils ont posté sur WWE Instagram, c'est, c'est quoi son nom? Austin Theory qui se filme sur le apron, puis Mustafa Ali qui donne un dropkick surprise, mais de la façon qu'il l'a filmé, j'ai pop sur mon téléphone, là. J'ai comme doux, dis donc, ben nice. J'ai aimé.
T'as-tu aimé Nikki Cross à la fin?
Ben oui, j'ai aimé ça.
Ben, c'est un impact. C'est sûr, c'est un impact. Ça. Voyons ce qu'ils vont faire maintenant, mais je suis content qu'on l'ait enlevé de son personnage de.
Peux-tu faire les avertissements, man?
D'anti-super-héros, là. Je suis content qu'on l'ait. Mais attends, j'ai une autre chose. Ali et Theory, j'ai bien aimé le match. Tu parlais de Mustafa Ali, ouais, mais Ali et Theory, j'ai bien aimé le match. Et là, on peut aller dans les avertissements.
Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives.
OK.
C'est là OK, j'attends toujours.
Liv Morgan. Ils se sont dit, elle était pas over comme championne. On va la mettre over. C'est Terry Funk. Liv Morgan, c'est Terry Funk. Habillée en Harley Quinn. On comprend rien. On comprend pas pourquoi elle rit. On comprend pas c'est quoi son personnage. On comprend rien. Il y a aucune promo. Il y a personne qui sait rien. Après des pins! À jamais pas pris de pin. Mais après les pins visuels, je tanné. Je suis comme dude. La dernière fois, t'as perdu ton belt. T'as perdu ton belt, tu riais.
Ta belt.
Ça fait 3 semaines. Tu nous as rien expliqué. T'es arrivé t'habiller en Harley Quinn. C'est pire que Joker Sting. C'est pire que Joker Sting.
J'ai cassé Fred juste avec le ta belt.
Ça, c'est un. Deux. Les deux partenaires.
C'est drôle parce que mon premier avertissement, c'est le nouveau personnage de Liv Morgan.
Comprends pas. Deux. Les deux gros partenaires, OK?
Quel gros partenaire?
Gros partenaire Omos, là.
Gros partenaire
Strowman. Non, il y a pas un gros partenaire parce qu'à côté de Omos, c'est une bitch. Pourquoi ils ont mis les deux face à face?
Moi, je te défie de dire à Braun Strowman que c'est la bitch d'Omos la prochaine fois qu'on le voit.
100% je vais lui dire. Là, moi, je m'en fous. Hey, le feu de shit.
100% tu perds ta chance.
Fuck. Non, mais ça se peut-tu? Ils ont mis les deux face à face. Braun Strowman, ça fait 3 semaines qu'il appelle le partenaire. Ça fait 3 semaines qu'il appelle Omos.
Ouais.
Puis MVP dit au partner, tu veux pas que vous soyez face à face. Quand vous allez être face à face, tu vas voir. Omos. Puis après ça, ils sont face à face. Le partner se fait bitch là à l'extérieur du ring. Il est resté à l'extérieur du ring. You bitch!
Ronda Rousey. Attends. Ronda Rousey fait une entrevue backstage avec une intervieweuse ou un intervieweur. C'est pas meilleur que quand elle a le micro. Ça coule pas. Ça a toujours l'air compliqué, Ronda.
Mais parce qu'elle utilise des mots compliqués. Pourquoi tu veux. T'es-tu mec folie?
Pas longtemps après, t'avais Zelina Vega qui avait une promo pour les Dago del Fantasmo. Ça coulait bien. Il n'y avait pas de problème.
OK. So, Logan Paul, là, OK? Je sais pas qui a écrit son matériel.
Ouais.
Mais il faut plus qu'il écrive, OK? Couper ses deux doigts. Il peut plus écrire rien. Les gens qui étaient shit. Le truc était shit!
OK. Hey, NXT.
Combien de fois ils vont faire le foot goddamn shit de Eddie Guerrero?
Qui ça?
Rey Mysterio?
Hein?
Mais tout le monde. Tout le monde le fait.
Mais tout le monde le fait en ce
moment. Non, mais à un moment donné, on a compris que c'est un hommage à Eddie Guerrero, mais c'est plus un hommage quand tout le monde le fait, c'est un trend.
Oh! Oh, wow! Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une quote au début d'un article. C'est plus un hommage, c'est un trend. Kevin Raphaël sur Eddie Guerrero. Mandy Rose et Alba Fire à NXT.
Ouais.
C'était pas bon.
Ouais.
OK, attends. Ouais. Ils ont un match.
Ouais.
Mais avant le match, ils décident de faire un match cinématographique.
Ouais.
Alors, ils s'en vont dans Alba Fire dans une maison hantée.
Ouais.
Demande à Mandy Rose et Gigi Dolin puis JC de venir les rejoindre. Puis là, ils s'en vont. Puis là, ils font tous les clichés d'une maison hantée. Là. Ouais. Ils se splittent. T'as celle qui a peur. T'as celle qui a pas peur. Alba Fire... fait une prise de soumission, pas vraiment réussie avec un bat de baseball sur Mandy Rose. Elle s'endort, elle la met dans son char, elle laisse les deux autres là. Et là, ça prend 1h15. Et il arrive à l'aréna. Je sais pas, était où la maison hantée, mais elle était loin en tabarnouche. 1h15 après, il arrive à l'aréna en auto.
Mm-hmm.
Mandy Rose sort. Elle a dormi pendant 1h15.
Mm-hmm.
Pendant 1h15, elle était knock-out.
Mm-hmm.
Elle se réveille, je sais pas si elle s'est réveillée, mais elle sort, puis elle essaye de se sauver. Mmh. Puis elle est encore un peu sonnée 1h15 plus tard.
Mmh.
Ils font le match. Mmh. Et puis, 1h15 après, les deux autres arrivent. Donc, le but des avoir laissés là-bas, c'était d'éviter les interventions. Et finalement, tu fais un match de 6 minutes avec des interventions qui font gagner Mandy Rose. Tu aurais pu sauver 9 minutes. Ils ont fait 9 minutes dans la maison hantée, 6 minutes dans le ring. J'aurais pris juste le 6 minutes dans le ring. Voilà. Fallait que je le dise. Roxanne Perez et Cora Jade dans le match avec des armes, là. C'est un peu Liv Morgan, Ronda Rousey.
Non, mais si tu peux pas le faire, fais-le pas, bro!
Ben, encore là, je comprends qu'il faut qu'ils les habituent.
Mais habitue-les pas à la télé!
Ben, habitue-les sur des house shows, à la limite. Tu sais, fais une pratique à quelque part, parce que c'était un peu pénible à ce niveau-là. Le finish a bien été, là, mais à part de ça, c'était pénible. Quiz de Double J. C'est l'heure du quiz, notre ami Double J, Jérôme Jacques. Vous êtes un lutteur.
Quoi?
Quelle période auriez-vous aimé le plus vivre entre les années 80 ou les années 90?
Ben, 90.
Moi, je pense que j'aurais aimé mieux vivre les années 80.
Ben oui, of course. Tu aurais été tout le temps sous.
C'est exactement la raison pour laquelle j'ai choisi les années 80. Parce que je sais pas, man. Moi puis Ric Flair, là.
Parce que je sais pas.
Quelle est la rivalité actuelle qui vous intéresse le moins entre Le Miz et Dexter Lumis ou Christian et Jungle Boy?
Parce qu'elle allait dire Liv Morgan puis son personnage shit.
Non. Donc, Le Miz et Dexter Lumis ou Christian et Jungle Boy?
Dexter Lumis. Au moins, Christian et Jungle Boy, il y a une histoire.
Mais il y a une histoire, mais à un moment donné...
Ouais, mais le panneau a été blessé. Au moins, il essaie quelque chose, là.
Je comprends, mais Luchasaurus, il peut choisir son bord.
Ah ouais, mais Le Miz, on peut-tu arrêter Dexter Lumis s'il rentre par évasion dans une maison qui a des enfants? Il est à Raw le lendemain! Les commentateurs, ils mentionnent qu'il est rentré dans une maison avec des enfants! Il est à Raw le lendemain!
Quel match qui n'est jamais arrivé? Auriez-vous aimé voir entre Hulk Hogan et Steve Austin ou Undertaker et Sting?
Ben, c'est Undertaker et Sting.
Absolument.
Ben non, mais
100%.
C'est Undertaker et Sting.
En fait, le match que j'aurais voulu voir, c'est même pas Hogan-Austin, c'est Goldberg-Austin.
Ben oui. Ça
aurait été plus tough. Mais Undertaker et Sting dans ce choix-là. Merci beaucoup, Double J. Kev, on va acheter des billets 26-27 novembre pour les premières parties de La Force de Montréal. Allez en librairie pour vous procurer la biographie d'Émile Butch Bouchard, le rock de Gibraltar du Canadien de Montréal. Sans restriction également avec Anne-Sophie Bété dans les prochains jours.
Non, elle est déjà sortie.
Au nom Fred Poirier, celui Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous! Ça va-tu, Kev?
Ouais.
Ouais, tu vas-tu survivre?
Ben oui.
Ouais, à ton premier match.